Luc 12, 35, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se saindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a rien agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Et puis la fin du chapitre 13 aussi, à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, à enseigner dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, se mettant à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. » Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Vous avez vu que dans ces paraboles, il est beaucoup question de la maison. La maison avec le maître de la maison et de ses serviteurs. À l'époque, ils connaissaient bien la vie et le fonctionnement d'une grande maison. En France, on connaît un peu la vie de château. Ici, c'est la vie de maison. Et finalement, beaucoup de vérités, beaucoup d'enseignements dans cet évangile tournent autour de cette image de la maison. D'ailleurs, en grec, le mot « maison », c'est « oikos ». Il y a toute une famille de mots qui partagent cette même racine qu'on trouve dans notre texte. Le maître de maison, c'est « l'oikodespote », l'économe, c'est « l'oikonomos ». Et voilà, toute cette vie qui tourne autour de la maison, de l'économie, de la gestion. Et en fait, c'est un peu ce que nous vivons en tant que chrétiens, nous sommes accueillis dans la maison de Dieu. Paul va décrire le grand privilège du chrétien en disant « Vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et ce matin, j'aimerais voir un peu les rôles clés dans ces paraboles et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur la vie chrétienne. Alors, nous allons voir le maître, l'esclave, l'économe et enfin l'invité d'honneur. Rapidement, voyons donc le maître, puisqu'il est grandement question ici du maître de la maison. Et vous avez tous compris, déjà le maître de maison, le Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais ces images trouvent tout leur sens quand vous comprenez ce que Jésus-Christ est en train de vivre dans cet évangile de Luc que nous avons déjà évoqué un peu ce matin. Parce que Luc rappelle souvent que Jésus, il est en route vers Jérusalem, il est en voyage, il va faire une visite à Jérusalem. Jérusalem, on pourrait dire, c'est un peu chez lui, c'est sa maison. C'est-à-dire Jérusalem qui est la capitale d'Israël, c'est là où il y a aussi le temple, la maison de Dieu. Et donc voici le maître de maison qui va vers sa maison. Et puis la Bible nous aide à comprendre que le peuple juif, dans l'ensemble, à travers leur histoire, ils étaient les intendants, les gestionnaires, les économes des biens que Dieu leur avait confiés, notamment à travers l'Ancien Testament. Et ces biens que Dieu leur avait confiés, c'était notamment la promesse du Messie, c'était l'accès aux Écritures, c'était la connaissance du vrai culte. Et en tant que peuple, mis à part par Dieu, ils devaient gérer et dispenser ces biens, ces richesses, pour le bien du monde, et tout en préparant l'arrivée, la visite du Messie. Alors, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, chez lui, dans sa maison, voici toute la question que l'évangile de Luc nous demande de nous poser. Lorsque Jésus arrive chez lui, comment vont-ils le recevoir? Dans quel état va-t-il trouver sa maison, lui le maître? Eh bien, vous savez un peu dans quel état il a trouvé sa maison, chez lui. Il a trouvé le bordel. C'était le bordel dans le temple. C'était le bordel dans les cœurs. Le bordel spirituel. Dans le palais d'Hérode, toutes ces personnes, c'était catastrophique. Crucifie-le n'est pas un mot de bienvenue. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'il faut accueillir le maître de la maison. La comité d'accueil a complètement failli. Ils auraient dû être là devant tous les autres. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est vrai, quelques personnes, quelques enfants l'ont accueilli comme il fallait. Mais les responsables, les autorités, ils voulaient qu'ils se taisent. Donc, finalement, ce qu'on voit dans cet évangile, c'est que le maître n'a pas été attendu. Le maître n'a pas été accueilli. Il n'a pas été servi. Et donc ces paraboles fonctionnent comme un premier avertissement, des appels au peuple juif. Mais j'ai retenu la question de Pierre en verset 41, chapitre 12, qui est pertinente pour nous. Seigneur, il dit, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Pierre est interpellé, il dit, mais est-ce qu'à nous, peut-être il parle, il pense à des 12 apôtres, est-ce que c'est à nous juste les 12 que tu parles, ou tu parles à tous tes disciples? Je pense qu'on peut élargir le sens de sa question aussi en disant, est-ce que tu parles juste à nous, les disciples de ta génération, ou tu parles à toutes les générations des disciples? Est-ce que tu parles juste au peuple juif qui attend ta première venue, ou est-ce que tu parles à des chrétiens qui attendent la deuxième venue? Est-ce que c'est juste à des responsables visibles, des serviteurs visibles que tu parles, ou est-ce que tu t'adresses à tous les chrétiens? Et le fait que Jésus ne réponde pas directement à la question, c'est comme si c'est une invitation à tous, à nous tous, une invitation à le reconnaître comme ce maître qui veut débarquer dans nos vies. Ce maître qui est proche, ce maître qui arrive, et reconnaître que oui, nous aussi, quelle que soit la génération dans laquelle nous vivons, quelle que soit l'âge de l'Église, eh bien, nous vivons dans un contexte similaire que les Juifs. Nous aussi, nous attendons l'arrivée du Maître. Et il convient à tous d'être prêts. Alors, comment faire cela? Eh bien, justement, c'est grâce à ces autres images que nous allons voir maintenant, des autres rôles clés dans une maisonnée de l'époque. Tout d'abord, l'esclave. Il nous appelle à se tenir ainsi. Vous savez, dans le fonctionnement d'une maisonnée à l'époque, il y a différents personnages, différents niveaux de responsabilité. Donc, en bas de l'échelle, il y avait les doulos, les esclaves, parfois traduits serviteurs. C'est vrai, souvent la Bible invite le chrétien à se voir esclave de Christ, serviteur de Christ. Le baptême, notamment, c'est entre autres l'engagement, ce vœu d'obéissance en disant « oui, c'est ce maître que je veux suivre ». C'est vrai que la notion de serviteur, la notion d'esclave est difficilement acceptée aujourd'hui. On ne veut pas être des esclaves, on veut être des gens libres. Mais le chrétien, en fait, c'est quelqu'un qui a compris que le choix, ce n'est pas entre la liberté et l'esclavage, mais plutôt quel esclavage je vais vivre. Est-ce que je veux être esclave du péché ou esclave de Christ? Est-ce que je veux être esclave d'un mauvais maître, comme le matérialisme, ou d'un bon maître comme Jésus-Christ? Récemment, j'ai entendu un de vous expliquer ce que c'est d'être chrétien, un ami, et personne disait, oui, être chrétien, c'est vrai, c'est être esclave, mais comment t'expliquer? C'est merveilleux, c'est volontaire, c'est libérateur. Être esclave, c'est libérateur. C'est vrai, c'est un bon résumé de ce poste, cette position dans laquelle nous nous trouvons, dans la maison de Dieu. Et puis, ces paraboles nous rappellent un peu ce que le maître attend, notamment, de l'esclave. Verset 35, « Que vos reins soient sains et que vos lampes allumées. » Là, c'est l'image d'être prêt, d'être disponible, d'être éveillé. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas tant l'activisme que la disponibilité envers le maître. C'est pour ça que Jésus donne ces plusieurs images qui sont pertinentes. D'abord, un maître qui revient des noces au milieu de la nuit, aussi un cambriolage, et puis enfin un maître qui revient à une manière inattendue. Vous savez, vous-même ici, chez nous, si vous êtes invité au mariage avec un repas qui va suivre, déjà, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas être de retour chez vous à 18h, à 19h. Ce n'est pas possible. Mais vous ne savez pas exactement, on ne sait pas exactement quand un mariage va se terminer. Ça peut aller tard et si vous avez un babysitter pour les enfants, vous ne pouvez pas vraiment dire exactement à quelle heure vous arrivez. Et c'était un peu cette idée aussi. Les noces, ça peut se prolonger, puis on arrive vraiment au milieu de la nuit, mais on ne sait pas exactement quand. Alors les serviteurs, puisqu'ils ne savent pas, ils doivent veiller, ils doivent être en état d'alerte. Et c'est un peu ça, la vie de serviteur, la vie d'esclave, être disponible, être alerte. Ces esclaves-là, ces serviteurs, ils ne peuvent pas dire, voilà, j'ai fait mes 35 heures, maintenant je vais au lit. Un employé, il peut dire ça à son patron. Il peut dire, voilà, ça c'est la garde de jour, maintenant c'est la garde de nuit qui s'occupe de ça, c'est pas mon affaire. Mais un serviteur, un esclave, à l'époque, il ne pouvait pas dire ça. Il appartenait à son maître, il avait été racheté, il tenait disponible pour le service. Et là, c'est cette attitude que Dieu demande chez les véritables chrétiens, c'est ce qui fait la différence entre l'évangile et la religion nous inculque cette attitude où l'on dit, voilà, j'ai fait mes devoirs religieux, maintenant on ne peut pas me demander plus, maintenant on me doit certains conforts, mon salaire. Mais ceux qui connaissent vraiment le maître Jésus-Christ, ceux qui ils ne vivent pas dans cette attitude, ils vivent dans cette, cette soif de l'accueillir, cette soif de le rencontrer, d'être à son écoute, c'est ce qui permet de passer du temps avec lui. C'est ça le véritable service chrétien. Mais ce n'est pas qu'avec le mot esclave, doulos ou serviteur qu'on décrit notre vie chrétienne. On parle aussi de l'économe. Verset 42, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens? Le mot économe est parfois traduit dans la Bible intendant, parfois dispensateur, parfois trésorier. Ça explique ce qu'il fait, hein. Trésorier, c'est quelqu'un qui gère l'argent, les biens, mais pas forcément les siens, hein. Il gère l'argent des autres. Alors, on est très reconnaissant aux trésoriers de notre assemblée. On a baptisé un qui épaule bien Antoine. Vous avez compris pourquoi j'ai choisi ces textes aussi sur l'économe. C'est une grâce d'avoir des économes prudents et fidèles comme nous avons chez nous. Mais la Bible dit que nous sommes tous des trésoriers de biens spirituels que nous sommes appelés à dispenser dans la vie des autres. Pierre rappelle en disant « Comme de bons dispensateurs, comme de bons économes, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est ça, vivre dans la maison du Seigneur, c'est ça, la vie d'Église. C'est dispenser les biens, les richesses, la nourriture qu'il nous a confiée dans la vie des autres. Et je trouve cette image forte parce que ça laisse une grande liberté. C'est vrai que l'économe faisait partie des esclaves en quelque sorte, mais il y avait une grande champ d'action et on lui remettait les clés de la maison en quelque sorte. C'était un peu comme Joseph avec Potiphar. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, Joseph a été vendu en esclavage. C'est Potiphar qui l'avait racheté, mais le verset dit que Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur toute sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alors, Joseph, effectivement, il avait une grande liberté de faire ce qu'il voulait avec la sagesse qu'il avait, avec le discernement qu'il avait, et Potiphar était très content de son travail. Et c'est aussi une manière que Jésus le maître agit envers nous, son Église, ses serviteurs. Parfois, on associe une vie de service à une vie de privation, une vie d'interdiction. L'esclavage, certes, a des mauvaises connotations, mais ce n'est pas le cas quand on considère ce que c'est qu'un économe. C'est vrai que le maître lui confie bien des choses, et puis le maître s'absente en quelque sorte. Et c'est une bonne image de la manière que nous devons vivre notre vie chrétienne. C'est vrai que Christ vit en nous, il est tout proche en tant que maître. Mais dans un sens, il n'est pas physiquement à nos côtés en train de nous chuchoter chaque instant de la journée ce que nous devons faire. Et il a dit « Je reviens et en attendant, je vous demande d'être fidèle et d'agir. » Certaines personnes attendent un mot de confirmation de Dieu pour la moindre décision et sont paralysées en essayant de comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça, être un bon économe. Un bon économe, il prend ce que Dieu nous a confié, et puis il investit, il dispense. Pensez aux choses que Dieu nous a données. Il nous donne du temps, il nous donne de la santé, il nous donne une famille peut-être, il nous donne des ressources financières. Mais plus que ça, il nous a donné la Bible, il nous a donné le message de l'Évangile, et puis il nous dit « Allez-y ». Soyez économe, et puis je vais y revenir, voir ce que vous avez fait. Être économe, c'est pas être radin, c'est pas ne rien faire. C'est avec cette prudence, cette fidélité, c'est investir pour faire fructifier. Et puis Jésus dit que finalement tout ça, ce n'est qu'une préparation pour nous, pour le monde à venir, où on apprend que les chrétiens seront confiés en quelque sorte la gestion du monde à venir, puisqu'ils ont été trouvés fidèles ici-bas. Bien sûr, on veut éviter ce cas, verset 45, « Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. » C'était un peu ce que les responsables juifs avaient fait. Au lieu de nourrir le peuple, de faire du bien à l'ensemble du peuple et du monde. Il s'était enivré de propre justice, de pouvoir, de religiosité. Et pourtant, ils avaient été confiés de grandes richesses, et c'est pour ça que leur châtiment était sévère, comme Jésus explique dans ces versets qui suivent. Verset 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est vrai que le peuple juif avait beaucoup reçu, on attendait beaucoup. Et un petit anon, quelques branchages de palmiers, voilà, il fallait accueillir Jésus-Christ avec plus que ça. Nous aussi, si nous sommes là ce matin, si nous vivons en Occident, si nous avons reçu un héritage chrétien, voilà, nous avons beaucoup reçu et nous pouvons beaucoup donner en tant que de bons économes. Mais non seulement nous sommes des esclaves, non seulement nous sommes des économes, mais ici nous trouvons, si nous lisons bien dans ces versets, nous sommes des invités d'honneur. Voyons ça maintenant, l'invité d'honneur. Parce que Jésus va beaucoup plus loin dans ses paraboles que simplement parler de l'esclavage ou la bonne économie. Dans cette image d'être dans sa maison, d'être à table chez lui, on découvre que Jésus, le maître, eh bien, il nous offre la place de l'invité d'honneur. Vous avez vu en verset 37, chapitre 12, il dit quelque chose de très surprenant. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scènera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Le maître dit, il va servir les serviteurs. Alors, cela devrait être assez choquant de l'entendre parler comme ça. Dans le contexte de l'époque, ça ne se faisait pas. Il arrivait, certes, qu'il y avait des serviteurs qui appréciaient bien le maître, qu'ils aimaient leur maître. Mais ici, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait connaître. Le maître sert l'esclave. Le maître met l'esclave à table et le sert. Ça, c'est inouï. Donc, ça montre que finalement, l'esclavage que Jésus a en tête pour nous, ce n'est pas souvent ce qu'on imagine. Il y a quelque chose de merveilleux, de glorieux. Et c'est vrai, c'est le message de l'évangile de Luc, c'est le message de la Bible, que Jésus, le maître de l'univers, il est devenu esclave pour nous servir, pour nous inviter une place dans sa maison, à sa table. Pour cela, il nous a servi de sa vie à la croix. Et pour ceux qui ont compris que le maître devient esclave pour moi, alors là, oui, tout service devient volontaire, devient libérateur. C'est bien sûr de ce maître-là que je veux, le maître qui est allé jusqu'à me servir de sa vie pour m'inviter chez lui. Et on peut dire, oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je préfère servir sur le seuil de sa maison que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Il nous invite à une place à sa table. Alors, pour nous aider à comprendre encore cette invitation, Jésus poursuit à la fin du chapitre 13, ces versets que nous avons lus. Il y a une invitation, mais pour être cet invité d'honneur, il faut entrer par la porte. Ça, vous le savez, si vous êtes invité chez quelqu'un pour dîner, vous passez, je crois, par la porte d'entrée. Si vous essayez d'entrer par les fenêtres ou par le toit, les gens vont vous trouver bizarre et risquent de retirer leur invitation. Ici, déjà, inviter quelqu'un chez soi, c'est un geste très amical, on passe du temps ensemble, mais dans la culture de l'époque, ça allait encore plus loin. Être invité chez quelqu'un, manger ensemble, c'était l'offre d'une intimité profonde, d'une communion profonde. Et c'est ce que Jésus offre. Bien sûr, il parle d'une porte étroite. Cette porte étroite, c'est avoir compris que oui, pour entrer dans la maison de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Il faut comprendre ce qu'il a fait pour moi à la croix, qu'il est venu me servir. Jésus avertit, première application au peuple juif, il avertit que certains sont étonnés de ne pas être dans la maison, ce peuple qui se croyait être bien chez eux. Nous avons mangé et bu devant toi, tu nous as enseigné dans nos rues, on fait partie de la même maison. Et Jésus dit non. En rappelant que c'est même pas les choses que nous faisons pour lui qui nous font entrer. Le danger, c'est de penser qu'une certaine proximité à Christ nous garantit l'entrée. Les œuvres d'une religion, une éducation correcte. Et Jésus appelle tout ça passer par, essayer de foncer par les fenêtres, par le toit, par autre manière que la porte d'entrée. Et c'est là, il dit encore quelque chose d'étonnant, de choquant pour le peuple juif. Il dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table à côté d'Abraham, Isaac et Jacob dans la maison de Dieu. Et d'autres vont être dehors. Alors c'est qui ces gens de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi? Eh bien ça c'est vous. Ça c'est vous, les non-juifs qui ont été accueillis dans la maison de Dieu. Et c'est ça qui est le comble. Des païens sont des invités d'honneur. Ils vont s'asseoir à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça c'est les meilleures places. À côté d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ça c'est les places que Dieu nous offre dans sa maison. Si nous acceptons son invitation. Bien sûr, une autre réalité pour cette invitation, c'est de répondre à temps. Hein. Si quelqu'un vous invite chez eux pour 19h30, vous débarquez pas à 3h du matin. Jésus lance une invitation, il a lancé l'invitation au peuple juif, et en quelque sorte, ils l'ont raté. Mais l'invitation est renouvelée pour chacun de nous. Mais Jésus évoque la possibilité que ça soit trop tard. Parce qu'on ne sait pas quand il arrive. On ne sait pas l'heure de notre mort. On ne sait pas les circonstances de la vie qui pourraient nous endurcir définitivement si on n'a pas accepté à temps. Donc, si vous voulez être l'invité d'honneur, il suffit d'entrer par la porte étroite. Et puis Jésus termine avec une belle pensée, je termine avec ça aussi. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puisqu'ils n'ont pas accueilli le peuple juif dans l'ensemble, a eu ce châtiment d'avoir leur maison abandonnée, déserte. Mais Jésus prophétise en quelque sorte le retour, une nouvelle chance de l'accueillir. Apparemment, si, en lisant le Nouveau Testament, et notamment ce verset, le peuple juif vont pouvoir un jour dire ce qu'ils auraient dû dire la première fois, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et un jour, ils vont le faire de manière plus répandue que juste quelques enfants, quelques disciples qui l'ont fait ce dimanche des rameaux. Ce serait un geste d'accueil massif de leur part. Alors si eux, ils vont le faire un jour, par la grâce de Dieu, à nous de le faire maintenant, à nous de le faire aujourd'hui, puisque le maître de maison est là, il vous offre une place chez lui, à sa table. Ne ratez pas cette invitation. Que Dieu vous bénisse.